BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à tous, et c'est la rentrée pour De quoi je mêle. Quel plaisir de vous retrouver. Et bien voilà, on vous l'avait dit juste avant les vacances, comme promis pour cette dernière semaine d'août, nous sommes présents. De quoi je me mêle, vous le savez, votre rendez-vous tech du week-end. On est ravis de vous retrouver. Bien sûr, l'actualité, elle ne s'est pas arrêtée durant cet été. On va en profiter justement pour faire un gros club de la presse IT, pour revenir sur toutes les annonces plus ou moins récentes dans le domaine de la tech. Je vous rappelle aussi le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à ce qu'on raconte et nous écrire, notamment sur X. Encore une fois, bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour le premier De quoi je me mêle de cette saison.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.
Et autant vous dire qu'on a quand même pas mal de choses à vous raconter dans le domaine de la tech. Et puis surtout, vous nous avez manqué beaucoup, beaucoup. Anthony Morel est avec nous. Salut Anthony.
Salut François, salut tout le monde.
Et bien voilà, il est de retour Anthony.
Bah oui, bien sûr, vous nous avez manqué.
Ben voilà.
Vous en plateau et puis vous qui nous écoutez, qui nous regardez.
Exactement. On a la chance de se dire que finalement, on fait un métier. Quand on revient, on est content de revenir.
Ouais, ça va. Ça, c'est.
Et je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir ce petit.
T'as raison.
Plaisir.
On ne mesure pas toujours ce bonheur.
Exactement. Anthony, que vous retrouvez le matin sur BFM Business et la mi-journée aussi chez Estelle. Ouais. Hein, Estelle Denis, ça n'a pas bougé hein, pour cette nouvelle saison. Gonzague d'Ambricourt est avec nous. Salut Gonzague.
Messieurs.
Voilà, Gonzague qui est blogueur, passionné de nouvelles technologies, youtubeur aussi, et puis qui est entrepreneur, hein, avec évidemment une boîte spécialisée dans les réseaux. Et à tes côtés, c'est Nicolas Guyot. Salut Nico.
Salut François, bonjour tout le monde.
Le grand baroudeur de la tech. Il était déjà tout petit qu'il commentait les premiers iPhones.
Ah bah oui, on les a connus tous les deux. Hein,
exactement.
Et, ouais, on les a découverts.
Exactement. Nicolas,
on a dit beaucoup de conneries aussi.
Je vais retrouver évidemment sur Clubic, hein, tu en es le rédacteur en chef. On va commencer par les pixels. Et oui, parce que en catimini, enfin j'ai dit en catimini, mais c'est vrai que en dehors des grands moments de la tech, Google a annoncé ses Pixel 11.
Oui.
C'est toujours un événement parce que nous journalistes, on aime beaucoup les pixels en général, parce que ce sont des téléphones déjà fabriqués, conçus par Google, donc avec un Android pur. On sait que côté photo, on sera vraiment dans le haut du panier. Il y a quand même pas mal aussi d'innovations liées à Android qui sont présentés en avant-première sur ces téléphones. Et donc, on attendait avec impatience, Anthony, ces nouveaux Pixel 11.
Oui, c'est ça, avec impatience. Et moi, je dois dire que c'est ma première petite déception de l'année. Et d'autant plus que, comme tu le disais...
Oui.
Et je le dis en tant que fan de Pixel, parce que moi, je l'utilise, je le dis régulièrement dans l'émission, mais c'est mon téléphone de la vie de tous les jours. Ça fait plusieurs années, depuis le Pixel 4. Alors, je n'ai pas eu tous les Pixels, mais en tout cas, assez régulièrement, parce qu'on en teste beaucoup des téléphones. Mais moi, ceux que j'utilise au quotidien, c'est vraiment les Pixel, donc je connais assez bien cette gamme. Et quand je dis déception, c'est pas tant l'appareil lui-même qui est tout à fait qualitatif, il y a un très bon appareil photo, tout est bien si tu veux, c'est un bon appareil. Mais pour moi, l'amélioration par rapport au 10 est tellement minimale, si tu veux, j'allais dire même microscopique, que du coup on se dit pourquoi avoir sorti des Pixel 11 quoi. Fallait rester au 10 à ce moment-là. Parce que, alors on peut jouer au jeu des 7 erreurs, tu sais, et franchement, je te mets un 10 et un 11 côte à côte.
C'est pas gagné.
À part un ingénieur de Google, si tu veux.
Et même lui.
J'exagère un tout petit peu, vous imaginez bien, mais quand même, c'est-à-dire que si tu regardes un peu dans le détail, les différences, c'est quoi ? C'est le même design, c'est le même poids à 5 grammes près. Tu as, alors si tu as une nouvelle puce quand même, tu as le Tensor G6, alors ça c'est vrai,
oui,
que c'est une amélioration. Avec notamment,
encore heureux, monsieur.
Oui, voilà, non, mais avec un TPU qui est plus puissant, donc pour les fonctionnalités IA, c'est beaucoup mieux. Très bien. Écran un peu plus lumineux, ok. Photo, amélioration à la marge, mais on est déjà tellement bien sur les photos des pixels que forcément on peut pas non plus avoir des innovations extraordinaires. La recharge un peu mieux, la fonctionnalité dont on a beaucoup parlé est complètement gadget, c'est Highlight, c'est un truc en fait, c'est une petite loupiote qui va s'allumer de couleurs différentes en fonction des gens qui t'appellent et qui va te montrer aussi que Gemini est en train de réfléchir. Bon, génial.
C'est-à-dire que tu vas pouvoir savoir quel type de notification tu reçois,
oui, voilà,
de par la couleur en fait de la LED qui est à l'envers du téléphone,
l'extérieur
du téléphone.
Pour moi, ça,
c'est Nosing d'ailleurs depuis quelques temps. D'ailleurs.
Oui, il y en a plusieurs qui font déjà ça. Alors moi, en tant que propriétaire de Nexus et de,
sur les BlackBerry, Léa qui est notre productrice nous dit qu'il y avait ça. Moi, je m'en souviens pas.
Non, mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est là où Anthony a totalement raison. Cette version 11, en fait, on se demande pourquoi elle est là, quoi. Parce que à part augmenter de 100 balles à peu près tout, parce que ils augmentent de prix, hein, là aussi on en a pas parlé, hein, mais il y a une petite inflation à cause de la RAM, mais il y a rien, même tu soulèves le capot, le nouveau processeur, on a fait des tests. Sincèrement, ça apporte pas énorme. Ouais. Alors oui, par contre, effectivement, le processeur, visiblement, il a bien été conçu pour faire tourner de l'IA en local. Là-dessus, il est assez balèze. Mais à part les fonctions Android 17, alors par contre, oui, effectivement, c'est la vitrine Android 17. Hein,
je dirais même que à certains égards, il y a une régression. Parce que d'après ce que j'ai compris sur ce Pixel 11, il y a moins de mémoire vive que sur le Pixel 10.
Oui, c'est ça.
Je sais pas si vous avez suivi ce truc-là. Ouais. On est dans une surenchère du coût de la mémoire.
La shrinkflation technologique, c'est ça.
Et Google s'est dit, vous savez quoi, on va enlever quelques gigas de RAM. Personne va le voir. Hein, on va faire ça tranquillou bilou.
On l'avait prédit, hein, parce qu'on a parlé assez souvent de ce Ramageddon ou l'apocalypse de la RAM un peu là. Et on avait dit l'une des modalités pour ne pas avoir à faire exploser les prix, ce sera de nous proposer le même produit avec un petit peu moins de mémoire vive, en disant rien ou en tout cas en partant du principe que 90% des gens vont pas forcément regarder cette caractéristique là et ils vont payer le prix. Et c'est exactement ce qui se passe. Et moi je pense que là, Google le fait, mais en fait, tout le monde va le faire. Enfin, beaucoup de fabricants.
Alors, ils compensent avec plus de capacité de stockage.
Ça, c'est vrai. Voilà. Non, il faut le dire aussi, il faut être honnête. Voilà,
parce que d'après ce que j'ai compris sur le 10, il y avait 16 gigas de RAM. Là, on passe à 12. 12. Ouais. Alors, c'est confortable, certes. Mais enlever ces 4 gigas, est-ce que dans certains usages assez intensifs du téléphone, tu vas pas commencer à avoir des ralentissements, tu vois? C'est la question que tu peux te poser. S'il y a un an, ils avaient estimé qu'il fallait 16. Comment ils peuvent expliquer aujourd'hui que 12 suffit?
Ouais, mais on passe d'un monde où la RAM coûtait que dalle, où tu pouvais en mettre, sincèrement, même nous on rigolait de temps en temps, t'avais des configs où t'avais beaucoup de RAM et elle était pas utilisée, à un monde où tout coûte cher. Donc en fait, il faut vraiment, le moindre giga, il est mesuré et je pense qu'ils ont été plutôt intelligents. S'ils sont descendus à 12, ils auraient pu descendre encore plus, hein. Ils auraient pu descendre à 10 ou à 8, hein.
Mais là, ça aurait fait quand même du beau.
Ça se voit.
Regarde Apple qui a toujours été chiche sur la mémoire vive, c'est compliqué. Et par contre, je trouve que c'est bien, c'est qu'ils ont augmenté la capacité de stockage.
Ouais, on passe à 256.
Voilà. Les capteurs photo, pareil, c'est pas la folie non plus, hein. On est toujours sur à peu près les mêmes capteurs. Alors par contre, le savoir-faire logiciel, c'est magistral. Là, on est sur une vitrine technologique. En fait, si vous avez un Pixel 10, ça n'a rien de passer au 11. Là-dessus, on est clair. Par contre, si vous avez un vieux smartphone Android ou un vieil iPhone et que quand vous allez voir les nouveaux tarifs du mois de septembre, peut-être vous allez vous dire, je vais peut-être essayer un Pixel. Et voilà.
C'est vrai, mais faut être juste dans notre appréciation, c'est-à-dire que le reproche qu'on fait là, on le fait régulièrement à Apple. Quand on dit, le nouvel iPhone, par rapport à la version de l'année d'avant, il n'y a pas grand-chose qui s'améliore et ils nous vendent un nouveau modèle tous les ans. Donc quand c'est des fabricants comme Google qui le font, il faut aussi le dire. Moi, c'est vrai que jusqu'ici, j'avais trouvé qu'ils étaient assez disruptifs, même si c'est un mot que j'aime pas trop, d'une année sur l'autre. Là, c'est la première fois que, tu vois, je reste un peu sur ma faim. Donc dommage. Et on se demande, et c'est la question qu'on se pose aussi souvent, mais c'est à quoi ça sert? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un cycle de smartphones tous les ans? Est-ce que juste tu peux pas sortir un téléphone tous les deux ans avec des vraies nouveautés quand tu fais ton annonce? Parce que là, pour le coup, il y a vraiment pas grand-chose.
Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions dont on n'aura pas accès en France, parce qu'en fait, c'est beaucoup d'IA.
Ah oui,
et voilà, et donc il y a beaucoup de fonctions qu'on ne pourra pas voir en France pour l'instant à cause de l'Union européenne et la réglementation. Donc voilà. Mais par contre, il y a deux trois trucs pas mal. Il y a Rambler notamment qui est une dictée vocale. En fait, au lieu de saisir avec le clavier vos messages, vous parlez à votre téléphone. Bon, ça, vous allez me dire, tous les téléphones le font. Sauf qu'en fait, il corrige à la volée. Il vous envoie des textes nickel. Sincèrement, c'est assez bluffant. C'est vraiment bluffant. Il y a le téléprompteur.
Tu t'en sers pour quoi? Pour envoyer des SMS, des mails?
C'est pas sur ça.
C'est ça. Ça enlève les hésitations.
Ouais. Ah oui.
Tu dis, j'aimerais manger une, non, un. Donc ça va reprendre ça. Alors que si tu dis dans Siri, j'aimerais manger une, non, un burger.
Zut.
Ça va écrire ça.
Il a écrit, zut.
Envoyez patron.
Effectivement, pas une innovation majeure non plus.
Non, voilà.
Et les innovations principales en IA, elles sont dispo que dans 7 pays et pas nous.
Et alors, c'est quoi les innovations qu'on n'aura pas? Il y a des trucs bien ou pas?
C'est vraiment l'essentiel des sujets de, tu sais, de prédiction d'IA embarqués, comme avec Apple. Hein.
Voilà, comme par exemple, tu échanges avec un ami en disant j'aimerais bien aller à la pizzeria, machin, ce soir, etc. Aux États-Unis, il va pouvoir te proposer
de réserver directement.
De réserver des places
resto,
directement. Au
envoyer l'invite à ton pote.
Voilà,
etc.
Voilà, en mode agent IA, quoi. Voilà.
La partie assistant, ouais, vraiment, ouais, qui nous manque.
Et là, ça cela dit, nous, comme on n'a pas d'amis pour les invités à manger des pizzas,
il n'y a pas de pizzeria en France.
Pizza en France,
ouais, ça sert,
de toute façon.
Non mais voilà, après il y a téléprompteur qui est pas mal. Il y a d'autres trucs que j'ai bien aimé aussi, téléprompteur, vous pouvez vous filmer.
Ah, téléprompteur, nous voilà. Ça nous parle. Ça nous
a aidé aussi, ouais.
Bah, vous vous filmez, c'est pour les influenceurs et pour les créateurs de contenu, vous vous filmez et ben vous avez une petite bande en bas où vous pouvez lire le contenu que vous avez
écrit avant. Ah d'accord, en surimpression.
Voilà, en surimpression, directement, d'accord, avec le téléphone. Et il y a les styles photographiques, on n'en a pas parlé, mais ça c'est un peu inspiré d'Apple aussi, qui avait lancé la mode. C'est en fait, vous définissez un style photographique pour votre téléphone. Alors c'est pas un filtre, c'est appliqué vraiment en amont de la photo et ça donne des photos
un peu personnalisées.
Ouais, personnalisées avec le style que vous voulez.
Tu peux un peu augmenter le contraste.
Voilà.
Ouais. OK. Bon
voilà.
Les tarifs, parce que évidemment, on va rigoler un peu.
1200 euros, c'est ça?
Alors, le premier Pixel 11 est à 999.
C'est ça. 1000 euros. Ouais.
Ensuite, t'as le Pro qui est à 1200.
1200, 1400.
C'est 1400.
1400 et après 2000 pour le pliant.
Voilà.
Le pliant qui, pareil, c'est même que l'année dernière, un peu plus fin.
Oui, n'évolue pas énormément et qui va avoir du mal, à mon avis, face à la concurrence. On en parlera tout à l'heure parce que là, on voit que on arrive avec un nouveau form factor, que ce soit chez Apple, qui devrait annoncer son pliant, mais aussi chez Samsung. J'ai cru comprendre que le nouveau Samsung Fold qui vient de sortir cartonne, en fait. Ouais. Le format.
Le form factor, vraiment, c'est
dingue, dingue.
Ouais, ça va changer beaucoup de choses. Hein,
ouais, c'est assez intéressant.
Mais c'est marrant parce qu'on en parlait, ça, justement, de ce format où on est premier à en avoir utilisé. On se disait, mais c'est bizarre, ces bandes noires, là, quand on regarde une vidéo en haut ou en bas. Ben là, en fait, ils ont à peu près réglé le problème.
Bon, ben voilà pour ce Pixel 11. On enchaîne avec les lunettes Meta. On en avait parlé, je pense, dans cette émission, il y a quelques mois de cela. On avait détecté que Meta travaillait en fait sur un système de reconnaissance faciale dans les lunettes. Visiblement, Tony, ça avance.
Oui, ça avance. Alors, on en avait parlé parce qu'il y avait eu des fuites dans la presse à l'époque. C'était le New York Times qui avait fait une enquête et qui avait sorti des mémos, des notes internes chez Meta qui expliquaient de manière très, très claire que la prochaine brique technologique qu'ils allaient installer dans leurs lunettes, donc les lunettes IA, les Meta Ray-Ban, etc., eh bien, ce serait une brique de reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les caméras qui sont intégrées dans les lunettes, on leur ajouterait un petit algorithme qui permettrait, eh bien, d'identifier potentiellement n'importe qui. Vous croisez quelqu'un dans la rue, vous scannez la foule du regard et vous allez pouvoir savoir que voilà, ça, c'est j'ai croisé François. Bon, on se reconnaît, dans la rue. Mais les gens, on va pouvoir les reconnaître grâce à juste à leur visage et on peut imaginer ensuite avoir leur profil sur les réseaux sociaux. T'as directement l'Instagram de la personne. Alors, bon, et donc là, alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que ça semble se confirmer, Meta a déposé un brevet pour une caméra intelligente qui permettrait d'identifier des personnes et de les taguer sur des vidéos. On n'a pas énormément plus d'informations, mais en tout cas, ça semble confirmer que la prochaine phase pour ces lunettes connectées, ce sera l'intégration de la reconnaissance.
Ouais, un peu plus que ça. En fait, il y a des chercheurs qui ont trouvé les composants logiciels dans les applications de Meta AI, des références à ce système. Donc en fait, c'est vrai.
Au-delà, c'est déjà implémenté, mais pas mis en route.
Exactement.
En fait.
C'est name tag.
L'idée, c'est qu'apparemment, Meta profite un peu du bordel qui se passe ambiant aux États-Unis pour faire passer des trucs un peu zoom-zoom de ce genre en disant non, mais c'est que pour faire une expérimentation, mais c'est quand même dans l'appli qui est distribuée à des millions d'utilisateurs.
Mais moi, c'est ça que je comprends pas, parce que tu as raison, tu dis ils essayent de le faire un peu en douce et tout, mais en fait, je comprends pas leur état d'esprit. C'est-à-dire, moi, à chaque fois que j'en ai discuté avec des gens de cette fonctionnalité-là, alors peut-être qu'après on a des biais de confirmation parce qu'on fréquente des gens qui pensent un peu comme nous et tout, mais à chaque fois on m'a fait la réflexion, mais c'est horrible, enfin, personne n'a envie d'avoir ça. Je ne sais pas si vous connaissez, vous identifiez des gens autour de vous qui auraient envie d'avoir des lunettes qui leur permettent de savoir qui se trouve autour d'eux. Et donc je me dis, Meta, bon, ils ne sont pas débiles, hein, évidemment, ils doivent faire des benchmarks, des études de marché, des trucs. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce que vraiment cette fonctionnalité, elle n'est pas plus répulsive qu'attractive pour le consommateur. Pour moi, une fonctionnalité reconnaissance faciale, enfin, c'est le repoussoir ultime dans le genre de truc qui fait vraiment flipper, si tu veux. Et je me dis, il y a peut-être un décalage entre les ingénieurs de la Silicon Valley, tu sais, les, ce qu'on dit, on appelle les technobros, un peu, qui sont vraiment dans leur monde, un peu. Oh, génial, on va pouvoir se reconnaître dans la rue et tout, et puis je vais pouvoir t'ajouter sur les réseaux sociaux.
Oh, Mike, regarde, on est en train de tester, ça marche, c'est génial.
Eh, regarde, je t'invite à manger une pizza avec mon agent IA grâce aux lunettes et tout. Enfin, tu vois, de peu connecter tout ça.
On revient encore aux pizzas.
Bah voilà, c'est pour ça que j'en parle. Et puis, le grand public, où 90% des gens vont dire, mais attends, mais c'est quoi ce truc? C'est-à-dire que n'importe qui dans la rue va pouvoir m'identifier. Donc, je suis dans le métro, par exemple, je pense une jeune femme, par exemple, et on va pouvoir l'identifier en 2 secondes et pouvoir ensuite ajouter son Insta. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Personne veut d'un monde comme ça. Et effectivement, ils ont essayé de le faire en douce. Et l'autre truc qui était dans les notes internes aussi révélées par le New York Times, c'était que, il le disait de manière assez claire, hein, il voulait aussi mettre en avant les fonctionnalités médicales pour faire passer la pilule en disant, bah si, pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, c'est génial, parce que tu vas pouvoir identifier les personnes autour de toi, les personnes que tu connais, etc. Donc la reconnaissance faciale, c'est intéressant. Mais une fois que tu sors du médical et que tu arrives dans le grand public, ah, c'est un peu plus inquiétant, quoi.
Après, je trouve ça hyper puissant.
Ah oui,
c'est vraiment un truc hyper puissant. Est-ce que nous, finalement, notre génération qui est assez réticente sur ces trucs-là, n'est pas un peu en décalage? Est-ce que finalement, tu vois, peut-être que la prochaine génération dira, ok, cool, savoir que je peux ajouter Gonzague parce que je l'ai croisé quelque part, j'ai vu qu'il avait, bah, il faisait des vidéos, je sais pas, peut-être on peut imaginer plein de trucs et tout, tu vois.
Moi, je pense que leur marché, c'est pas forcément le grand public, c'est eux. En fait, c'est ça qu'on oublie, c'est que le marché, c'est Meta. Ouais. Meta, Facebook, en douce pendant des années, et qu'ils le font encore, bien sûr, ils ont créé ce carnet d'adresses de l'ombre qui permettait pour eux de savoir à qui tu étais connecté, qui étaient tes amis, parce que tu déversais le carnet d'adresses de ton téléphone dans leur app. Et même si tu n'ajoutais pas quelqu'un sur Facebook, bah, ils savaient que tu étais connecté à cette personne, tu avais son numéro. Et ils ont construit avec ça une gigantesque base de données. Il faut se rappeler aussi qu'ils ont quand même acheté une société de VPN pour observer le trafic et les applications qui étaient très utilisées. Donc, leur intérêt, c'est plutôt souvent le leur, hein, que le nôtre.
Ouais, tu penses qu'en fait, c'est lié à leur modèle économique de base, qui est de vendre de la pub. Et donc, en gros, ils veulent en savoir toujours plus sur toi. Et là, le fait de pouvoir savoir qui tu croises, à quel moment et à quel endroit, finalement, ça va être une base de données qui est...
Mais Meta, c'est vrai aussi. Meta, c'est une des plus grosses bases de données sur les gens au monde.
T'as pas besoin d'avoir de caméra pour ça, en fait. En fait, c'est ça que moi, je comprends pas. Parce qu'en fait, la caméra, t'as un côté surveillance. T'as un côté j'ai vu. Alors, si tu fais du géofencing, si tu fais du, tu peux faire la détection, hein, par géolocalisation, hein. Tu passes à côté d'un ami, les deux téléphones, ça match, tu sais que la personne est là. Je vois pas l'intérêt, effectivement, de filmer pour filmer, quoi. Sachant que c'est un truc, c'est quand même un gros frein, quoi. Il y a des enjeux en plus derrière, bon, en termes de vie privée, mais aussi après les points de vue techniques. Les lunettes, elles peuvent pas filmer 24/24. Donc voilà. Donc en fait, un moment, je sais pas, à part servir en Chine ou
la Chine, je me souviens, on fait une chronique il y a 10 ans de ça, où la police testait des lunettes avec la reconnaissance faciale intégrée. Donc peut-être.
Mais je crois que toutes les caméras publiques en Chine,
les caméras, oui,
totalement,
ont un logiciel de reconnaissance.
Ont de la reconnaissance faciale, ouais, absolument.
C'est clair, on sait que t'es passé à tel endroit, on sait qui tu es, d'où tu viens, est-ce que tu vas faire, plus ou moins.
Et ça arrive dans pas si longtemps chez nous, hein.
Non.
Les Jeux Olympiques, etc.
Oui, il y a eu des dérogations.
Des dérogations qui sont prolongées.
Oui, mais c'est pas de la reconnaissance faciale, hein.
Non,
c'est de la détection algorithmique. Voilà, c'est pas
détection de
scène. Pas pareil.
C'est
vrai. Non, alors
je me demande pendant les JO s'il n'y avait pas certaines caméras qui, justement, en termes de sécurité, pour essayer de combattre le terrorisme, il n'y avait pas de la reconnaissance faciale.
Je crois pas. De ce que j'avais compris, mais c'était, comme le disait Gonzague, la détection de certains comportements anormaux, ou alors un bagage abandonné ou ce genre de choses. Ça, les caméras sont capables de le faire. Et effectivement, les expérimentations se sont multipliées. Mais la barrière avec la reconnaissance faciale, qui est complètement interdite dans l'espace public en France.
Peut-être qu'ils avaient activé ça et qu'ils ne nous l'ont pas dit. Hein. Peut-être qu'à certains moments.
Ça, après.
Spécifique, parce que c'est au point depuis très nombreuses années.
Hein. Après, ça, on peut avoir le débat. Moi, ça ne me choque pas plus que ça.
Non, moi non plus.
Après, ça dépend du cadre, mais tu vois, la reconnaissance faciale pour détecter des personnes qui sont recherchées par la police, par exemple, ce serait pas complètement délirant de se dire que quand t'as un événement sportif, tu puisses détecter des gens qui sont potentiellement dangereux. Bon, après, ça, c'est un autre débat.
Oui, c'est un autre débat.
Ce qui est sûr, c'est que la CNIL, quand elle va entendre parler de ses lunettes, enfin,
alors là.
Si ça doit arriver en France, je pense que les mecs vont faire une crise cardiaque. Jamais ça sort en France.
Mais il y a déjà des États aux États-Unis où en fait où les gars en fait ils commencent à porter plainte en fait hein, là-dessus hein, sur le port de lunettes dans l'espace public vraiment oui. sans LED. Alors maintenant il y a la LED obligatoire. D'ailleurs je crois que même Meta a fait le nécessaire pour que il y a pas mal de bidouilleurs qui
pouvaient hacker le truc, répéter la.
Mais bon. Maintenant dès que tu essayes d'y toucher un petit peu ça se.
Ça désactive la caméra.
Et après moi je trouve que ce qui est dommage c'est qu'en fait tout ça ça va vers des lunettes plus compliquées à gérer. Moi ce que j'ai adoré sur ces Ray-Ban sur les premières Meta en fait c'est la simplicité de ces lunettes qui se mettent à jour fréquemment. On a plein de nouvelles fonctions qui arrivent etc, mais c'est simple, j'ai juste des écouteurs, j'ai une caméra, je peux prendre des photos, t'es en vacances, t'as pas besoin de sortir ton téléphone, prends des photos, tu veux filmer un petit truc, tu filmes un petit truc, point barre. Là, ils commencent à nous rajouter des couches. Et là, sincèrement, est-ce que tu as envie d'avoir des lunettes usine à gaz sur le nez, quoi? Ce qui était génial de ces lunettes, c'est la simplicité.
Ouais, mais tu sais, c'est un peu le sens de toutes ces boîtes-là qui veulent toujours ajouter l'innovation, toujours essayer de. Et puis, il y a le business, comme tu le disais, derrière ça.
Le business,
tu
as le côté compute portable, enfin wearable devices qui embarquent. C'est ce que fait Apple avec le Vision Pro. C'est pas le même produit, tout ça converge.
Et puis, il ne faut pas que ce soit repoussoir, quoi, en fait. C'est ça.
Et puis, je vous rappelle que toutes ces données qu'on capte, qui vous dit que Meta ne s'en sert pas aussi pour améliorer ses LLM, toute son IA.
Je vous rappelle toute la data filmée par les lunettes.
Bien sûr, je vous rappelle que l'ère de la robotique va bientôt arriver. Imaginez un peu la valeur qu'ont toutes ces données quand on marche, quand on manipule des choses, quand on photographie, etc.
Je rappelle qu'aux États-Unis aujourd'hui, tu as quand même des boîtes d'IA qui te proposent de venir faire le ménage chez toi. Avec et la femme de ménage avec des lunettes connectées ou avec une petite caméra
et tu dois bien montrer ce que tu fais
pour bien filmer ce que tu fais et en fait du coup pour entraîner les robots ensuite qui serviront à faire le ménage parce que la valeur de ces data a plus de valeur que le prix horaire de la femme de ménage.
C'est bizarre parce que moi je sais pas ce que vous en pensez mais ça me dérange ça parce que je me dis finalement ces gens-là sont en train d'enterrer leur métier. Finalement,
oui, tu contribues à ta propre disparition.
Tu contribues à ta propre disparition.
Je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup le choix en fait. Hein,
certes, je suis d'accord. C'est une ligne de revenu mais malgré tout, je trouve qu'il y a un côté cynique dans ce truc-là qui est effrayant.
Alors, il va falloir des millions d'heures d'enregistrement avant d'arriver à un truc à peu près potable hein, aussi. Donc,
tu mets 10 000 personnes qui font ça, tes millions d'heures, vite les avoir.
Mais ils disent que justement, il y aura une petite dizaine d'années hein, quand même avant d'arriver à un résultat potable.
Pour les robots,
pour les robots.
Mais tu sais que pour le fait de scier la branche sur laquelle on est assis, si on peut dire, c'est vrai dans tous les métiers, et y compris les journalistes. Tu as maintenant des applis d'IA qui te proposent, toi en tant que journaliste, de relire plein d'articles générés par l'intelligence artificielle et de dire qu'est-ce qui pourrait être amélioré, est-ce que le titre ça va du point de vue d'un lecteur humain, est-ce que tu mettrais ça plutôt avant ça, et t'es payé à l'heure et c'est assez bien payé. J'avais regardé, je sais plus le nom du site, et il proposait en fait pour tous les métiers à partir du moment où tu as une expertise particulière et bien
c'est
d'aider à entraîner les modèles.
Tu fais l'apprentissage sur
tout à fait.
Allez, on enchaîne avec cette polémique qui dure concernant les gamers et les possesseurs de PS5 avec le PS Blackout qui a fait couler beaucoup d'encre cet été, Anthony.
Oui, c'est ça. Alors, on rappelle le contexte général, mais enfin, je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sont un peu au courant que Sony a balancé un énorme pavé dans la mare en disant « on arrête ». Les jeux physiques, on passe au tout dématérialisé. Donc, il y a évidemment une énorme levée de bouclier de la part des joueurs.
Et tout ça rapidement, dès 2027, je crois que ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de galettes.
1er janvier 2028.
1er janvier 2028. Mais ils vont commencer déjà réduire.
GTA est annoncé sans support physique, etc.
Donc, GTA n'existera pas en support physique.
Ça fait partie du chantage qu'opère le mec qui publie des leaks du jeu. En disant, moi, j'ai envie qu'on puisse l'avoir en physique.
Et oui.
Ce qui est peut-être plus efficace, alors parce que du coup, il y a eu des appels au boycott, dont le fameux PS Blackout, donc qui consiste à ne plus se connecter en ligne et
à quitter le PSN,
Ouais. Bon, ça a fait flop, pour l'instant. C'était évident que ça allait pas fonctionner. Enfin, pour moi, c'était une évidence,
Si tu plus connecté, tu joues plus, hein.
C'est-à-dire que ceux qui sont les plus mécontents, c'est ceux qui jouent sans doute le plus. Donc, ça doit être dans la tête un truc
mais surtout en fait le truc, alors moi c'est pareil, je suis un peu désolé du fait qu'on arrête parce que je suis un collectionneur de boîtes physiques, j'adore, etc. Je prends acte du fait que le dématérialisé maintenant c'est le gros du marché et que d'un point de vue économique ça pas très, tellement de, enfin, ça a du sens pour Sony, en tout cas, d'aller vers le tout dématérialisé. En revanche, ce qu'on peut vraiment leur reprocher, c'est leur sens du timing, puisque en plein milieu de ce blackout PlayStation et de cette bronca des joueurs, ils se sont fendus d'un mail que vous avez peut-être reçu, hein, qu'ont reçu tous les joueurs de Play, qui rappelle, mais vraiment noir sur blanc et de manière assez peu ambiguë, que, en gros, quand vous avez des jeux dématérialisés, vous ne possédez rien. Alors c'est à vous. Enfin, je sais pas. Tu veux peut-être en parler, Nico.
Oui, oui, non, mais ils ont reçu. Comme quoi, ils ont rappelé qu'en fait, on avait des licences pour jouer à des jeux et que les jeux, en fait, on les possédait pas. Quoi. Vous téléchargez un jeu sur le PlayStation Network. Ce jeu, vous avez acheté une licence d'utilisation.
Oui, c'est-à-dire qu'on achète la jouissance du jeu.
Voilà.
C'est ça.
Donc.
Mais vous possédez pas.
Alors, mais c'est quoi la différence entre le fait de le posséder et d'avoir la jouissance du jeu finalement?
Ah bah non, si t'as la boîte physique, tu la possèdes, tu peux la revendre, tu peux revendre ton
jeu. Ah oui, vois, d'accord.
Le CD, ça, tu vois, c'est ça. Ouais, en fait, mais tu peux prêter, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu l'achètes, après, voilà, il a une valeur à la revente. Là, en gros, tu as une licence d'utilisation qui
n'est pas cessible.
Ah bah non, et puis surtout qui peut sauter pour tout et n'importe quoi. Ils écrivent, vous ne possédez pas le produit numérique. Quand on achète ou télécharge un jeu, on peut l'utiliser, mais on n'en est pas propriétaire. On ne peut ni le revendre, ni le prêter, ni le léguer. Et ils expliquent également que, bah, par exemple, ton compte peut sauter pour n'importe quelle raison, et à ce moment-là, tu perds tous tes jeux. Que s'il y a un bug de leur système à eux, pour une raison ou pour une autre, bah, en fait, tu perds tout. Ils ont, alors, s'ils font une énorme erreur, ils peuvent te rembourser, mais au maximum, je crois, c'est une centaine d'euros. Donc, toi, tu as monté une bibliothèque de jeux,
tu as payé 2000 balles. 10 000 euros de jeux, tu vas avoir 100 balles.
Et tu récupères 100 euros. Et en fait, à la limite, j'allais dire, on le sait, si tu veux. On sait, on est au courant, globalement, de ce truc-là. Personne ne lit les conditions générales d'utilisation, mais on est au courant. Simplement,
c'est le
sens du timing, quoi. Ouais, juste, tu te dis, est-ce que les équipes de communication discutent avec les équipes juridiques pour, en plein milieu, alors que vraiment tout le monde est vraiment à vif sur cette question, envoyer le mail en disant, au fait, les gars, les jeux là, vous les possédez pas. Non, mais c'est terrible, c'est vraiment.
Non, mais t'as l'impression d'avoir un pion, tu sais, qui a une classe dissipée qui arrive et qui tape du poing sur la table en disant, c'est moi le boss. Bah, ok, d'accord, on a compris, mais le problème, voilà.
Et là, il commence à se prendre des bouts de craie, le gars.
Je pense que, ça continue comme ça, Mais effectivement, en fait, ils veulent aussi se dédouaner s'il y a des problèmes, même avec leur partenaire. Hein. Il suffit qu'un éditeur coupe un serveur et que le jeu soit plus accessible en réseau, par exemple. Mais avant, ils pouvaient se prendre des procès, des trucs comme ça. Là, le but, c'est de dire que globalement, voilà, ça, c'est propre. Vous avez le droit juste d'utiliser. On est dans notre, c'est des CGU, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de choses, hein, comme ça, hein, pareil sur votre voiture. Hein.
Bah, en fait, on est quand même dans un monde de l'abonnement. Spotify, Netflix, vous payez un abonnement et quand il s'arrête, tout le contenu auquel vous aviez accès s'arrête.
Ouais, sauf que c'est pas pareil là.
Ah mais je suis d'accord avec toi.
Tu t'achètes un GTA, ça va te coûter entre 80 et 100 balles.
Ah non mais on est d'accord. Et surtout il est marqué.
Et là tu t'abonnes pas. Voilà.
Il est marqué acheté sur le site, donc c'est vrai
acheté. C'est ça, tu vois. Autant moi je peux comprendre, tu t'abonnes, je sais pas moi, un service d'abonnement de jeux sur Xbox ou sur PlayStation, tu t'arrêtes de payer. Oui. Ça fait partie du jeu.
Bien sûr, là tu payes un prix unitaire pour un jeu versus. Et on est tous d'accord. Et en fait ce problème existe depuis longtemps, comme vous l'avez dit, puisque sur des plateformes comme l'App Store, etc. Parfois, tu peux avoir acheté une app, ne plus pouvoir la re-télécharger, ou d'ailleurs, même si elle est juste plus mise à jour, tu ne pourras pas en bénéficier sur ton nouvel appareil. Si on te ferme ton compte, tu perds tout.
Ah, t'avais eu même à l'époque, je me souviens, des MP3 de l'iPod où il y avait eu des histoires de gens qui voulaient léguer leur discothèque MP3 et qui n'avaient pas pu le faire, par exemple. Donc, en fait, dès que t'achètes un produit numérique, en réalité, c'est ça. En fait, il faudrait même pas utiliser le mot acheter parce que on sort de la définition. Tu n'es plus
propriétaire, en fait.
Et si on y pense, en France, on se fait vraiment triplement avoir parce qu'on paye quand même le droit à la copie privée dont on ne peut pas du tout bénéficier.
C'est clair. Ouais. Bon ben voilà pour cette petite anecdote PlayStation. Et puis je vous rappelle qu'il y a la PS6 qui devrait arriver. Alors je sais pas quand, mais
retardée.
Ça va pas arranger tout ça à mon avis.
Ouais, en fait, normalement devait arriver vers 2028-2029, mais vu le prix de la mémoire vive, là en fait les gars, on fait tous des simulations. On se retrouve avec des consoles de salon à 1000 balles minimum.
Ouais, mais ça veut dire que la PS5 aura 10 ans en fait. Elle aura une durée de vie de 10 ans, ce qui est quand même incroyable. Hein.
Inédit, ouais.
Ouais, après
c'est un cycle de vie très long.
Voilà, normalement
c'est des cycles de vie 7 ans.
C'est 7 ans, je crois.
Alors après, ils sortent des PlayStation, la PlayStation 5 Pro. Il y a des nouvelles techno comme le DLSS, qui permettent d'avoir plus d'images par seconde ou une meilleure définition sans faire trop travailler le processeur graphique. Il y a le cloud qui va pouvoir aider. En fait, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, cette crise de la mémoire vive continue,
ils ont de quoi encore mettre en.
Ils peuvent mettre plus ou créer peut-être une console avec peut-être moins de mémoire vive. Ils vont faire peut-être comme Google.
Ils peuvent appeler Google.
Voilà, voilà. Et mais avec des composants qui vont permettre d'avoir des performances grâce à l'IA, notamment.
Ok. Voilà. On va revenir dans un instant, les amis. On a encore plein de choses à vous raconter. Vous savez qu'il y a un robot Aspie en ce moment qui cartonne aux États-Unis, qui paraît-il est au top du top. On va en parler dans un instant. Et puis, bien sûr, les rumeurs concernant les nouveautés Apple qui vont pas tarder à arriver. Et on parlera aussi robots avec Unitri qui a fait sensation quand même lors de ces Jeux Olympiques des robots. Anthony en parlait et on en a aussi parlé dans Tech & Co. À tout de suite pour la deuxième partie de ce De quoi je mêle. Un grand merci d'être là.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, deuxième partie de ce De quoi je mêle. Un grand merci de nous écouter, de nous regarder. Je vous rappelle que De quoi je mêle en exclu et en avant-première dès le vendredi midi sur la chaîne YouTube de Tech & Co et aussi en podcast audio. Et évidemment, on ne change pas nos habitudes. Vous aurez quelques minutes supplémentaires si vous nous écoutez sur le podcast. Et puis après, le week-end, bien sûr, le vendredi soir sur BFM Business, à la radio, à la télé, puis rediffusé aussi le samedi et le dimanche. Anthony Morel est toujours avec nous, Gonzague d'Ambricourt, Nicolas Guyot pour cette deuxième partie. Et Anthony, on va parler maintenant de robots aspirateurs. Il faut savoir que c'est un marché qui est, on va dire, verrouillé par les Chinois depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, tous les robots aspirateurs que vous achetez viennent de Chine.
70% du marché.
Ouais, c'est monstrueux. Sauf que, eh bien là, il y a une nouveauté qui vient de la Silicon Valley.
Oui, c'est ça. Alors, c'est un aspirateur américain, mais qui enflamme la presse tech aux États-Unis. Il n'est pas encore sorti en France, mais c'est aussi pour ça qu'on voulait vous en parler, parce que c'est un petit bijou de technologie, on va y revenir. Et pour la petite anecdote, et c'est ça qui m'a titillé, et c'est pour ça qu'on en parle, il a obtenu, alors vous connaissez le site Wired, évidemment, qui est un site tech de référence depuis des années, des décennies, donc il teste tous les produits possibles et imaginables, et ce robot aspirateur, qui s'appelle le Matic, ils lui ont donné la note de 10 sur 10. Et chez Wired, le 10 sur 10, c'est genre une fois tous les 5 ans.
Ouais, c'est rarissime,
Vraiment, ça n'arrive quasi jamais. Okay. Je me dis, mais quand même, c'est complètement incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un robot qui a été conçu par des anciens ingénieurs de chez Google. Ils se sont dit, on va révolutionner l'aspirateur robot. Alors, ils y ont intégré une couche d'intelligence supplémentaire. Ce petit robot aspirateur, il, par exemple, on va lui parler, on va lui donner des ordres. C'est-à-dire que tu vas, en fait, le commander et lui dire, voilà, va nettoyer les plantes du salon. Tu vas lui dire, tu peux lui montrer
Passe-moi l'aspi sur le tapis, quoi.
Passe-moi l'aspi sur le tapis. Ah là, sur le tapis, il reste une tâche. Et tu lui montres, en fait, du doigt. Et il va aller nettoyer là où tu lui montres.
Nico a fait tomber un morceau de pizza sur le parquet.
Par exemple, la fameuse. Et donc, du coup, il va venir récupérer la pizza. Parce que en fait, la plupart des robots aspirateurs sont équipés de télémètres. Lui est équipé de caméras, donc 6 caméras intelligentes qui sont capables d'analyser tout ce qui se passe et de le rendre un peu plus malin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire, vous savez, bêtement des allers-retours, et vous allez avoir le message aspirateur bloqué, il faut venir le débloquer. Lui, en fait, il va voir et comprendre ce qui se passe chez vous et donc il va pouvoir zigzaguer, se faufiler un petit peu partout, comprendre vos habitudes aussi, c'est-à-dire il voit que par exemple après les repas, vous mangez souvent, vous êtes autour de la table de la cuisine, il y a des miettes de pizza, il y a des croûtes par terre parce que Nico mange comme un cochon et donc l'aspirateur, il vient récupérer les croûtes de pizza.
Bon, pauvre Nico, il a rien demandé,
il prend des balles perdues. Donc voilà, en gros c'est ça. L'idée, c'est ils ont ajouté finalement une brique d'intelligence. Alors tout ça, vous allez me dire peut-être, c'est un peu gadget, mais ça permet sur un marché qui est très concurrentiel, celui des aspirateurs robots, d'avoir un petit peu de nouveauté. Et en tout cas, les journalistes tech qui ont testé ce robot, on n'a pas pu le tester encore, il est sorti aux États-Unis seulement, eh bien, le trouvent absolument, absolument incroyable.
Alors, si vous êtes avec nous en vidéo, vous voyez les petites vidéos de présentation qui sont quand même assez rigolo parce qu'on dirait une imprimante scanner à roulettes. Mais il est tout mignon,
ouais.
C'est clair. Visiblement, on jette le sac quand il est vide au lieu de le garder. Tu le jettes.
Il n'a pas de base. Il n'a pas de base.
Alors
en fait, c'est quand même incroyable parce que donc il est très populaire, mais il est quand même assez cher. Il est vendu actuellement $1,250 et il revient en septembre à 1,500, qui est le prix de lancement. Il n'a pas de base. Quand il aspire du liquide, ils le font sécher avec un gel assez particulier. Donc, c'est des sacs jetables qu'il faut jeter toutes les semaines et qui a un prix de composants quand même de consommables assez élevé.
Donc tu as les sacs, tu as le gel, j'imagine.
Exactement. Après, dans les trucs rigolos sur le produit, il a cartonné sur X. Il y a plein de gens un peu riches qui se sont mis à montrer des vidéos qu'il avait à la maison. La fonctionnalité de commande vocale est récente. Et normalement, je gère 70 langues. Donc, marrant. Et il est un
peu...
Tu peux
lui demander de ramasser les pizzas en, en ourdou, en bengali.
Ça marche.
Mais il est un peu contrarié dans sa politique. C'est-à-dire qu'à la base, ils ont quand même lancé ce robot qui est capable de fonctionner sans Internet, en Bluetooth, parce qu'il embarque une carte NVIDIA Jensen Nano. Donc, assez dingue.
Donc, il a de l'intelligence, on va dire.
Il a de l'intelligence, c'est ça qui fait fonctionner ses caméras. Donc, lui, le plan de la maison qu'il fait, il n'est pas uploadé à l'extérieur.
Okay.
Donc, par exemple, Amazon, qui voulait racheter iRobot, c'était beaucoup pour avoir aussi accès au plan des maisons.
Et on sait que la plupart des robots chinois, eux, envoient toutes ces toutes ces données.
Et on a vu beaucoup, là, l'été dernier, les piratages qu'un chercheur français a mis en exergue sur DJI, sur tous les constructeurs.
Ouais.
Donc, ça, c'est local. Mais le truc con, c'est que la reconnaissance et le contrôle vocal se passe par Google. Donc ça, c'est pas local. Donc c'est fou parce qu'il a eu cette note incroyable et en même temps, il a plein de trucs un peu basiques ou pas très pratiques. Devoir jeter des sacs, ça coûte cher. Et à la base, cette boîte, elle voulait le louer, ce robot. Ils voulaient le louer $125 par mois. Et ils ont finalement basculé sur le modèle de la vente. Ils en ont pas vendu énormément non plus. C'est un produit qui s'est vendu à 16 000 exemplaires, je crois. Donc c'est pas encore menaçant pour les Chinois. Ce qui les menace, c'est que le gouvernement américain est en train de durcir toutes les lois autour du fait de l'acheter américain. Il faut que ça soit construit aux États-Unis avec 65% de
composants américains.
Ce qui est quasi impossible. Donc,
oui, parce que même sur ce produit-là, je suis persuadé qu'il y a des composants chinois.
Bien sûr.
C'est obligé.
Il est fabriqué et assemblé aux États-Unis, mais c'est bardé de composants asiatiques. Ouais.
C'est-à-dire qu'il bénéficie aussi de toute cette dynamique, on va dire, géopolitique actuelle. Ouais, voilà, c'est ça.
Hein.
Et puis, je vous rappelle une dernière chose, c'est que le seul constructeur de robots américain, iRobot, a mis la clé sous la porte et a été racheté par des Chinois, je crois.
Oui, ça devait être racheté par Amazon et ça s'est fait bloquer par l'autorité de la concurrence américaine.
Et en fait, ils n'ont pas tenu le coup, ils n'avaient pas assez de cash. Et je crois que c'est l'un des fournisseurs d'iRobot chinois qui a racheté en fait la marque iRobot.
Non, mais c'est marrant, moi ça me fait penser aussi, parce que tu dis sur un marché qui est aussi concurrentiel, parce que mine de rien, alors il y a des acteurs trustés par les Chinois, mais il y a beaucoup de concurrence quand même entre les différents acteurs. Et donc, c'est à qui ajoutera finalement ce que tu dis à un moment, robot aspirateur, qu'est-ce qu'il peut faire de plus quoi. Il aspire bien, ok, super. Et donc, il y a plein de trucs qu'on voit, notamment sur les grands salons au CES. Tu te souviens, là, ce qu'on avait vu, le robot avec la pince qui ramasse la chaussette qui traîne, ou cette année, le truc encore plus dingue et encore plus débile, c'était le robot aspirateur avec un drone. Tu te souviens de celui-là?
Tu avais
le drone qui venait se poser sur le robot aspirateur et qui le faisait aller à l'étage supérieur pour qu'il puisse faire deux étages.
Et le robot qui fait monter le robot.
Ouais, aussi.
Le robot dans le robot maintenant.
Non mais c'était cool. Et franchement le truc c'était ridicule parce que ça faisait un boucan d'enfer. Hyper dangereux. T'es dessous le drone lâche l'aspirateur.
Tu prends l'aspirateur.
Ça n'a aucun sens.
Dans la torpeur de l'été en fait c'est nos collègues américains en fait ils ont vu un truc qui changeait en fait. C'est que là les robots aspirateurs ça fait 5 ans on les voit nous. Alors ils sont de plus en plus performants hein, mais ils viennent tous du même endroit. Ils ont tous la même gueule. Ils sont tous le même concept. Alors effectivement, ils essayent d'ajouter une pince, un machin, un truc, etc. Mais au final, ils se ressemblent tous. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui fonctionne, tous les Chinois adoptent la même chose. Donc ils ont tous la même gueule et le même fonctionnement. Là, on a un robot, il est carré, donc il est un peu cubique même.
Il a pas de base comme
il a pas de base. Zag. On communique avec lui d'une autre façon. Je pense que le truc, c'est ça qui a fait tilt.
Après, en fait, il y a plein de robots chinois avec lesquels
avec
on peut discuter.
Commande vocale.
On fait un peu
bien sûr.
Commande vocale, mais là, ils vont quand même un peu plus.
Tu vois, c'est rigolo, mais les gens qui l'essayent, ils disent s'ils passent le pied d'une table, ils se perdent. Les jambes des gens avec les pieds des chaises. Bon.
Je pense que parce que comme c'est un produit américain, voilà, il y a eu aussi.
Je pense qu'il y a ce
cocorico.
Ouais, on l'a fait. Il est mignon. Ça change, mais.
Une petite tête de Wally.
Ils sont dingues. DJI qui a sorti son modèle.
DJI qui vient de sortir le Romo 2, visiblement. Il a un truc rigolo, c'est que, je sais pas si vous avez vu, lorsqu'il détecte les plaintes ou alors des angles, il sort. Il a comme un truc qui se déclenche, un petit bras qui nettoie en fait les angles morts finalement d'un robot traditionnel. C'est quand même assez impressionnel.
Surtout, là, il y a une innovation. Mais j'attends de voir les Chinois là dans 6 mois là.
Bien sûr,
là, les gars, ils ont la même version.
Et peut-être encore mieux.
Avec l'efficacité de leur base habituelle.
Surtout que les robots chinois et asiatiques sont beaucoup faits au même endroit. Donc en fait, toutes les, il y a une partie des marques qui manufacturent dans
évidemment,
les mêmes usines.
Évidemment. Et oui, mais c'est la cette bataille des robots Aspi, et d'ailleurs c'est dingue, hein, parce qu'aujourd'hui vous allez dans les Fnac, les Darty, les trucs comme ça, il y a des rayons entiers de ces robots-là.
Et à tous les prix.
Et ça marche, ça marche, parce que les gens se disent, ok, bah, si ça m'évite de passer l'Aspi de temps en temps, etc. etc.
Le taux de renouvellement est supérieur même aux aspirateurs.
Hein, ouais, oui, une fois que tu y as goûté, mais il y a un énorme marché à conquérir, parce que je crois que c'est 15% des foyers qui sont équipés en France, donc tu vois, il y a encore beaucoup de
foyers. Si vous avez déjà un robot aspirateur à la maison qui date d'il y a 4-5 ans, oubliez-le, hein, vous voyez ce que font les nouveaux.
Ouais, c'est notamment la puissance d'aspiration.
La puissance d'aspiration, lavage, les bases, qui permettent de vous n'avez plus besoin de mettre d'ouvrir ou enlever des sacs ou des machins, etc. Et tout. Ils se nettoient tout seuls et maintenant, ça va être la LIFA, hein, ils vont monter les escaliers tout seuls.
Et parfois, tu as des promos avec des Xiaomi à 100 euros. Enfin, je veux dire, à un moment, tu réfléchis même plus si tu as des enfants ou des animaux, etc.
Le truc, c'est avoir une maison ou un appartement bien rangé, quoi, parce que sinon,
Il commence
si
à
un peu bordélique.
Si t'as des chaussettes et des partout, c'est pas bon.
Et surtout des morceaux de pizza.
Mais ça, bon, chez Nico, il y en a pas. Hein.
J'habite dans une pizzeria.
On reste dans les robots, reste en Chine avec Unitree, cette boîte incroyable qui nous bluffe à chaque fois avec des nouvelles vidéos postées, alors soit de boxe, soit de tu en sais quelque chose, Anthony.
Je me suis pris quelques pains,
Il s'est pris un uppercut dans le ventre en janvier dernier là, c'était quand même assez impressionnant. Ouais. Les danses, enfin les trucs comme ça. Et alors ce qu'il y a de fou, c'est que la Chine, pour apporter encore plus de ludique dans cette compétition technologique qui est incroyable, a organisé des jeux, des jeux olympiques un peu.
Oui, c'est ça, des Olympiades robotiques.
Voilà, des Olympiades robotiques.
C'est exactement ça. En fait, il y avait deux événements quasiment au même moment. Pour vraiment montrer leurs muscles technologiques, c'était la World Robot Conference, donc qui est vraiment la grande conférence mondiale selon son nom de la robotique, mais qui est une conférence chinoise qui est organisée chaque année en Chine. Et puis quelques jours plus tard, il y avait donc ces Olympiades robotiques qui étaient organisées en grande pompe à Pékin avec vraiment tous les codes des JO, c'est-à-dire qu'il y avait une cérémonie d'ouverture, c'était dans un stade, vous aviez donc du public, vous aviez un défilé, le défilé des athlètes le premier jour.
Parce que là, il y avait tous les pays, il y avait beaucoup de pays, il y avait pas que la Chine.
En fait, il y avait 16 pays, mais en réalité, quand tu regardais, t'avais 95% de robots, c'est des robots chinois en fait. Donc ils étaient vraiment ultra surreprésentés. C'était des laboratoires universitaires, des labos de recherche, des grandes entreprises qui venaient présenter leurs modèles. Et donc ces modèles s'affrontaient dans une cinquantaine de disciplines. Alors beaucoup de disciplines sportives, il y a aussi des trucs non sportifs, mais c'était beaucoup. Donc t'avais du sprint, de l'haltérophilie, du saut en longueur, du
tennis saut en hauteur.
Enfin, il y avait vraiment plein de trucs. Et c'est vrai. Alors déjà le défilé des athlètes, enfin c'est vraiment les Stormtroopers dans Star Wars, c'est presque un peu inquiétant, tu vois. Et après, quand tu vois les images des robots sportifs, je dois dire que c'est de plus en plus impressionnant puisqu'il y a un certain nombre de records humains qui ont été battus.
Pulvérisés.
Donc tu as notamment le record du 100 mètres mythique du Usain Bolt, évidemment, qui a été battu par un robot qui s'appelle Lightning. Donc Lightning, c'est la foudre. Et il a fait donc le 100 mètres en 9 secondes 39. Donc 9 secondes 39, c'est vraiment explosé le record du Usain Bolt. Et alors on va dire, oui, c'est facile, c'est un robot. Mais en fait, non, c'est extrêmement, extrêmement compliqué d'avoir la coordination, l'agilité et la puissance pour pouvoir battre Usain Bolt au sprint. Ça se fait pas comme ça. Et ça fait des années et des années que les fabricants de robots
travaillent. Je sais pas si vous avez vu la course, le 100 mètres, ça se finit.
Oui.
Le truc, il finit dans les bâches et le robot, il prend feu.
Ouais.
Tellement le truc, il a donné.
C'est assez drôle.
Il est allé au bout de son effort.
Des gens qui se sont mis à dire, si vous êtes poursuivi par un robot, courez vers un mur. il va aller dedans. Mais moi, ça me rappelle, vous vous souvenez, ça fait des années qu'on voit les combats de robots, donc des écoles d'ingénieurs et tout, qui font les robots qui se retournent avec
les émissions même.
Mais oui, c'est extraordinaire. Et qui aurait pensé voir, là, sur un track comme ça, des robots courir plus vite
Gonzague, l'année dernière, rappelle-toi, il y avait eu déjà les premiers JO, les gars, ils faisaient juste le petit marathon, quoi. Il y avait un truc, les robots, ils avançaient pas, c'était catastrophique, etc. Et là, maintenant, c'est incroyable.
Et si vous rappelez aussi, en fait, ça fait des années qu'on parle de Boston Dynamics, qui nous a toujours impressionnés avec ces robots qui sautent, le robot chien, le machin, qui étaient d'ailleurs tous très flippants. Et là, c'est le marché asiatique a complètement pris le devant de la scène médiatique.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la vitesse de la progression de ces robots. Parce que, alors tu le disais, nous on a l'occasion d'en voir et d'en tester assez régulièrement. Et en fait, quand tu vois où on en est aujourd'hui versus où on en était il y a un an ou deux ans, c'est quand même très très spectaculaire. Moi, par exemple, pour prendre un autre exemple que la boxe où je me suis fait laminer par un robot, c'était...
D'ailleurs, je pense qu'il faut que... comme tu vas aller sans doute au CES l'année prochaine, que tu t'entraînes.
Oui, bah
avant d'arriver bien. Là-bas.
Ouais, c'est ça.
Tu formes un robot
pour que tu puisses te battre à armes égales.
À armes égales, ce serait bien. Mais tu vois, par exemple, j'avais affronté, bah, c'était au CES, mais... je crois que c'était l'année d'avant, un robot au tennis de table. Et moi j'ai un niveau camping quoi au tennis de table, donc je joue mais voilà
oui, oui.
Et j'arrivais à tenir tête au robot. Aujourd'hui t'as des robots comme celui de Sony qui avait été présenté il y a quelques mois et qui s'appelle Ace, qui bat aujourd'hui des professionnels humains, qui est pas encore au niveau des frères Lebrun mais qui est au niveau des professionnels humains. Donc c'est te dire si tu veux l'évolution, c'est-à-dire bien dans sûr. La capacité à analyser la vitesse de la balle, à positionner la raquette de manière presque parfaite. Et donc là encore on se dit ça va très 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 vite, et évidemment les applications derrière, parce que ça sert, enfin dans l'absolu ça sert pas à grand chose de faire courir un robot comme ça, mais c'est que tu vas avoir des robots qui vont pouvoir être utilisés dans des usines, dans des entrepôts, dans la défense aussi, dans l'armée, pour je sais pas, faire de la patrouiller dans des zones dangereuses, tu peux les utiliser pour faire de la surveillance industrielle, enfin on peut imaginer plein de cas d'usage, pour des robots médicaux aussi, concevoir des nouveaux types d'exosquelettes. En fait toutes les avancées qu'on voit ici dans le domaine de la motricité, de la souplesse, de l'agilité, et qui sont, c'est vrai, très spectaculaires, on va les retrouver d'une manière ou d'une autre dans nos vies dans les années qui viennent. Donc, faut pas se dire juste ça sert à rien, c'est complètement débile. Non, en réalité, c'est une démonstration technologique, mais derrière, il y a des cas d'usage qui sont bien réels.
Là, et faut pas croire qu'il y a que la Chine en fait derrière tout ça, parce que y a Nvidia est vachement impliqué. Mm-hmm. Le moteur de l'intelligence artificielle à l'intérieur, c'est du Nvidia. Unitree là qui a été introduit en bourse récemment là, ça fait un carton et ils ont présenté ils sont un peu tombés, ouais. Mais ils ont présenté un robot qui s'appelle Superman qui courait plus vite, encore plus vite que celui qui a gagné, qui fait des sauts de 2 mètres, etc. Ils ont aussi un nouveau robot qui s'appelle le H2+, c'est la plateforme de référence Nvidia, c'est Isaac Groot à l'intérieur. Et en fait, c'est ce qui va servir à tous les fabricants
de
robots.
Oui, c'est un peu le cerveau du robot. Mais
c'est ce que Nvidia a déjà fait avec l'IA. Mmh. L'IA, ils ont filé les kits de développement, les machins, vous avez toutes les briques. Développez votre IA. Nous, on a le matos et l'interface avec le matos. Ouais. Pareil pour les robots.
Et en fait, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a eu cette D'ailleurs, si tu fais le parallèle entre la progression des robots et la progression de l'IA, je pense qu'on est sur les mêmes vitesses de oh waouh, comme c'est choquant. Et Nvidia, en fait, bosse depuis longtemps sur des moteurs de simulation du réel qui permettent d'entraîner des robots sans avoir à ce qu'ils existent physiquement. Et donc, c'est ça qui permet aussi ce genre de progrès.
Ouais.
Donc,
ils sont très forts. Et là, ça va très vite, en fait.
Ouais.
Je pense qu'on pensait pas que les robots iraient aussi vite. Et je pense que là, l'arrivée de l'IA et tout ça...
Moi, ça me fait penser, il y a 20 ans, avec Deep Blue, finalement,
oui.
Où on commençait à avoir des robots qui tenaient tête aux meilleurs joueurs d'échecs. Et puis, un jour, Gasparov s'est fait battre. On vit la même chose, maintenant, dans un autre domaine, qui est plus l'électromobilité, finalement. C'est du calcul, mais c'est un autre type de calcul. Et voilà, et la logique veut que dans quelques années, on se fasse battre par la technologie, par la mécanique, par l'IA dans tous les domaines humains.
C'est une nouvelle
finalement.
Blessure narcissique ouais. pour le.
C'est une nouvelle blessure narcissique.
C'est vrai. Hein.
Et la différence.
Dont on enfante.
Ah
tout
oui,
ça.
Bien sûr.
C'est ça qui est. C'est ça
créé
qui est
par l'humain.
Mais... Créé par l'humain.
Et à la différence d'un Deep Blue où il y avait je sais pas combien d'ingénieurs derrière cachés pour lancer la bécane, pour que ça fonctionne, etc. Ouais, là, ouais. Les robots, vous pouvez même commencer à les acheter. Hein, ça coûte 30 000 balles. Hein, vous pouvez avoir une Unitree à la maison. Hein, bon, faut le faire venir.
Pour l'instant, ils sont un peu abrutis. Ils peuvent pas trop faire de choses.
Mais s'ils peuvent courir, moi ça m'intéresse, moi.
Mais ça va aller vite. Hein.
Ben ouais, t'imagines.
Ah bah attends, trop bien. Un robot
derrière toi, comme
qui
ça.
Court avec toi.
Voilà, maintenant, c'est génial. Le grand public peut avoir ses robots.
Ouais, c'est clair.
Ou les entreprises.
Oui, oui.
Alors qu'en fait, demain.
Alors, Deep Blue, c'était pas possible, quoi.
Ah, Deep Blue, il fallait
un hangar.
Voilà, il fallait un hangar pour mettre la bécane.
Mais Deep Blue, c'est le cas maintenant. Maintenant, t'as des IA, tu joues aux échecs. Enfin, c'est dans ton téléphone, t'as 10 fois la puissance de Deep Blue. Tu joues à Stockfish, les programmes d'échecs qui sont infiniment plus forts que le meilleur joueur humain. On reviendra jamais en arrière.
C'est grâce à cette miniaturisation aujourd'hui qu'on arrive à faire tout ça. Quoi.
Ouais.
On termine, il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on évoque quand même l'actualité d'Apple, parce que ça bouge du côté de chez Apple. Vous le savez, le 9 septembre prochain, ça a été annoncé il y a quelques heures, Apple présentera ses nouveaux iPhones. Un rendez-vous à suivre, bien évidemment, chez nous, hein, dans Tech & Co. Le 9 au soir, on sera en direct dès 19h sur BFM Business, à la radio, à la télé, pour vivre tout ça. BFM Tech, tu en parleras aussi, bien évidemment, Anthony, sur Clubic. Forcément, ça sera toute l'actu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déjà, alors Apple a déjà communiqué sur un produit qui est sorti là, c'est leur nouveau processeur, en fait qui est le M6, alors c'est décliné, il y a le M5 Max, M5 Ultra, ouais, enfin voilà, tout ça, qui ont une particularité, c'est qu'ils sont d'une puissance Bah, incroyable.
Bah, c'est en fait c'est le nouveau Mac Mini hein, qui va intégrer cette puce M6 et en fait c'est devenu le Mac Mini est devenu chouchou des férus d'IA parce qu'en fait c'est la machine parfaite pour faire tourner des agents IA. Donc vous avez une mémoire unifiée, plein de puissance de calcul, et aujourd'hui c'est ce que utilisent les devs et même les passionnés, hein, parce que vous n'avez pas besoin d'être dev hein, pour faire tourner des agents IA. Et voilà, donc Apple a sorti ça, 40% de puissance en plus, le prix. Par contre, il augmente. Hein, on était avant le Mac Mini, oublié le Mac Mini à 600 euros. Là, c'est fini, hein, cette histoire. Maintenant, on est à plus de 1000 euros pour une bécane en 16 gigas avec 256 gigas de stockage.
Et le Mac Studio qui va, qui n'est pas encore disponible avec le max de mémoire vive. Tu pourras le configurer bientôt avec 512 gigas. Ça coûtera, je pense, 30 000 euros. Donc, voilà.
Et ça marche vraiment là, le truc, ce que tu disais. Moi, j'en ai vu plein là, passer sur les réseaux sociaux des messages de mecs qui disent, oh, j'ai acheté 5 ou 10 Mac Mini, je l'ai fait tourner. Et en fait, c'est mon entreprise, quoi. Et genre, ils ont une entreprise qui tourne toute seule.
Ils ont leur propre IA.
Ouais. Et du coup, ils génèrent des revenus comme ça. J'ai toujours l'impression que c'est une arnaque. Ils
utilisent OpenClaw. On a fait des dossiers, nous, sur Clubic. Hein,
et Hermès, qui est le remplaçant.
Ouais. Voilà. Et vous utilisez, en fait, c'est un gestionnaire d'IA, d'agent IA.
Moi, je ne suis pas d'accord avec ce truc.
Ça fonctionne plutôt bien.
Mais oui, ça fonctionne. Et effectivement, tu peux faire tourner des modèles en local. Mais le progrès et la puissance des puces fait que, et le progrès des modèles fait que, par exemple, les modèles qu'on appelle de frontières, c'est les plus récents, les plus puissants, comme Sol et Fable chez OpenAI et chez Anthropic, ne peuvent pas tourner sur un Mac mini. Et en fait.
Pourquoi? Parce que c'est pas assez
puissant. Parce qu'il faut une RAM encore
plus. Il faut encore plus.
Ça tourne dans des fermes de serveurs.
Mais est-ce que tu as besoin de toute cette puissance? L'ordinateur agentique, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux faire des trucs assez basiques.
Bien sûr.
Avant, qui nécessitaient des serveurs, le faire dans le cloud.
Bien sûr,
là, avec un Mac mini.
Il faut pas mal de RAM. Si voilà. Tu veux
faire il faut de la RAM. De toute façon, c'est la RAM.
Un modèle comme Quen, etc. Ouais. Il faut 20 gigas de RAM. Bon, donc il faut un Mac qui a déjà 20 gigas. Et en fait, la configuration.
Mais après, c'est une équation économique.
Oui, mais l'équation.
Par exemple, tu investis 10 000 balles dans un, je dis n'importe quoi, dans un Mac avec 20 gigas de RAM.
Ça fait une belle somme déjà.
Ouais, mais est-ce que ça va pas te faire économiser des tokens
Ça dépend.
Que tu vas payer chez Claude.
Je trouve le calcul assez complexe parce que pour 20$ jusqu'à 200$ chez OpenAI et Anthropic, tu peux avoir des forfaits qui te donnent accès au modèle frontière, donc à la toute puissance. Au tout petit modèle qui coûte beaucoup moins cher.
Non, mais pas en illimité.
Ils ont recoupé, t'as vu, à tout moment, ils peuvent couper le
nombre de calculs par jour. J'ai un abonnement à 200$. Donc, versus investir 10 000.
Contre, les données, tu maîtrises pas forcément tout.
Bien sûr, mais la puissance du truc, elle est folle. Ça marche de partout. T'as pas besoin de maintenir un data center chez toi. Et il n'y a pas un coût upfront de 10 000. Et surtout, s'il y a un éditeur qui sort demain quelque chose de mieux, j'arrête mon abonnement à 200 chez celui-là, j'en change. Une fois que ta machine, tu l'as achetée, si le processeur...
Ça peut avoir un intérêt.
Et là, par exemple, OpenAI, ils viennent d'annoncer leur propre puce, comme les TensorFlow de chez Google, etc., qui ont l'air d'augmenter les capacités et la vitesse de leur système d'une magnitude qu'on n'aura pas avant un bout de temps sur nos machines. Donc,
C'est quand même une grosse tendance parce que tu vois, par exemple, en Chine, la grande tendance, c'est tu prends les cartes graphiques Nvidia d'il y a 2-3 ans, t'augmentes la mémoire vidéo et ça te fait des super ordinateurs pour faire un ordinateur agent.
Ouais, c'est clair.
Ça te permet de faire tourner les trucs en local et pas forcément, tu cherches pas forcément le truc le plus puissant, mais pour aller, pour envoyer un bot, pour aller faire une revue de presse. Est-ce que tu as besoin d'aller forcément prendre un abonnement à 200 balles?
Bon, écoutez, on va terminer de quoi je vais mettre sur cette question de Nicolas Guyot. Merci à tous les trois. Merci Anthony.
Merci François, merci à tous.
Anthony Morel sur BFM Business, Gonzague d'Ambricourt, merci mon Gonzague, à très vite. Et puis Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic. Si vous voulez évidemment avoir toute l'actu, Clubic est là pour ça. Le petit module bonus vous attend si vous êtes avec nous en audio. On vous offre quelques minutes supplémentaires avec Anthony, Gonzague et Nicolas tout de suite. Et puis pour vous, pour tous les autres, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci de nous écouter et de nous regarder. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.